moi, ce serait plutôt transition des sciences. Enfin, des sciences dures aux sciences molles, on va dire.
On adore ces mots-là.
Alors, donc moi, je suis étudiante en philosophie, mais je vais essayer de parler un petit peu de sciences aussi, vu que la sous-optimalité se part de ça. Donc ma question, le titre de ce que je voudrais présenter, donc, c'est seulement des réflexions. La question, c'est la Terre est-elle un système sous-optimal ? Donc on l'a vu donc, dans la présentation d'Olivier. Donc les systèmes biologiques ont souvent été présentés comme le top de l'efficacité et de la capacité à l'autorégulation et à l'équilibre. Mais en fait, ça tient bien à des effets qui sont plutôt considérés comme négatifs. La lenteur, la stochasticité, la redondance, etc. C'est ce qu'on a vu avec la sous-optimalité. Et donc, si on décide de prendre la sous-optimalité comme paradigme pour penser, il faut se poser la question de l'extrapolation, c'est-à-dire la capacité à faire une analogie entre donc, ces systèmes sous-optimaux biologiques et d'autres systèmes qu'il s'agirait de penser. Et il se trouve que la tradition de penser en Occident, il me semble, a presque toujours pensé la Terre comme un tout individuel capable lui-même d'autorégulation, capable de garantir son propre équilibre. Donc c'est la conception d'un système Terre qu'on pourrait dire optimal, qui plonge en fait ses racines dans une analogie organique entre la Terre et un être vivant. Donc cette analogie se retrouve déjà chez les stoïciens, donc elle est très ancienne. Donc je peux très rapidement présenter la pensée des stoïciens. Donc pour eux, le monde est un corps vivant qui est animé par la raison divine, c'est-à-dire la raison en tant que logos, Dieu étant la raison même en fait, Dieu et la raison étant la même chose. Pour la philosophie des stoïciens, la raison est donc immanente au monde, propre aux êtres qu'il compose, donc que ce soit les êtres inertes, les plantes, les animaux, les hommes. Ce qui fait que tous les corps sont immédiatement ou médiatement en sympathie les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'ils subissent chacun les effets des autres corps. C'est la thèse de la sympathie universelle. Donc on a bien une idée de la Terre comme un système équilibré selon des lois de la raison. Et aujourd'hui, presque toutes les sciences ont abandonné donc, l'idée le paradigme d'une providence divine et donc d'une raison divine, mais il y a bien une idée de loi, d'équilibre et d'homéostasie qui a été conservée. Donc l'homéostasie, c'est la stabilisation, le réglage chez les organismes vivants de certaines caractéristiques physiologiques. Et donc cette idée se maintient lorsqu'il s'agit de comprendre les processus du tout global que constitue pour nous la planète bleue. En outre, les stoïciens avançaient une thèse surprenante, le fait que le monde a un commencement, une fin, tout en étant éternel. C'est-à-dire que même si notre monde est fini, le Dieu ou la raison ne peut faire autre chose que le reproduire à nouveau, car la raison est éternelle et un Dieu qui est une raison ne peut pas vouloir une autre chose différente que ce qu'il a voulu une première fois. C'est-à-dire que le monde est voué à une fin, puisqu'il est fini, mais il est voué également à une forme d'éternel recommencement. C'est ce qui s'appelle la palingénésie chez les stoïciens. Puisque le monde est le meilleur possible, puisqu'il a été voulu par la raison. Ainsi, le monde compris comme système régi par la raison ne peut être que beau et bon. Le négatif, dont tous les aspects qui peuvent apparaître mauvais et des défaillances, cacherait du positif et la Terre serait un système homéostasique qui serait capable de s'autoréguler, un système en somme tout à fait optimal. On constate que la conception de la Terre comme système optimal repose sur cette analogie organique entre la Terre et les êtres vivants. Et donc la question serait, peut-on à notre tour repenser l'analogie à l'aune de la sous-optimalité ? Dès lors qu'on considère que les êtres vivants ne sont pas, et les cellules par exemple biologiques ne sont pas optimales mais sous-optimales, peut-on penser que la Terre est sous-optimale ? Donc et repenser tout le paradigme qu'on avait posé juste ici. Donc c'est juste une hypothèse de réflexion. Donc il s'agit de savoir si on peut étendre la thèse de la sous-optimalité de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique, voire globale de la Terre. Donc peut-on critiquer l'idée que la Terre soit un système optimal ? Nous verrons qu'avec donc l'ère de l'anthropocène, nous risquons de toucher les limites d'un système que l'on croyait capable de se rééquilibrer à l'infini. Nous tenterons de retracer le parcours de la conception de la Terre comme système optimal dans les sciences contemporaines, donc de l'hypothèse Gaïa de Lovelock dont je vais parler, jusqu'aux sciences du système Terre qui peuvent être faites aujourd'hui. Et nous nous demanderons donc si l'équilibre qui jusqu'ici semblait relativement stable ne risque pas d'être définitivement rompu dans le contexte de l'anthropocène et de l'émergence de limites planétaires. Donc ce sera en deux temps ce que je vais essayer de présenter. Donc d'abord on va tracer un parcours de l'hypothèse Gaïa, dont je vais parler, aux sciences du système Terre. L'hypothèse Gaïa a émergé dans le début des années 70, à partir d'une approche des cycles biogéochimiques, élaborée par le chimiste anglais John Lovelock, Lovelock, donc L-E-V-E-L-O-C-K. Et la microbiologue américaine Lynn Margulis, Margulis, M-A-R-G-U-L-I-S, donc qui était spécialiste des symbioses. Ces deux scientifiques ont travaillé ensemble. Donc, par exemple, on a un article qui s'appelle Homeostatic Tendencies of the Earth's Atmosphere, qui date de 1974. Donc, l'hypothèse Gaïa repose sur l'idée que la troposphère, alors la troposphère qui est la partie de l'atmosphère terrestre la plus proche de la surface du globe, est une partie intégrante et nécessaire de la vie elle-même et régulée par elle depuis des milliards d'années. C'est-à-dire que des paramètres essentiels de la troposphère, sa température, ses composants chimiques, sa capacité d'oxydation et son acidité, sont sous le contrôle direct de l'ensemble des organismes vivants. L'ensemble des organismes vivants s'appelle le biote. La vie exercera un contrôle actif sur son environnement physico-chimique, en somme. Donc, dans une série d'articles à partir des années 70 sur la théorie Gaïa, la Terre est présentée comme un tout biologique et physique, un système autorégulé capable de maintenir un environnement chimique et climatique favorable à la vie. Et même, et là je cite Lovelock, optimal. Donc le terme optimal est employé par Lovelock. En parlant de géophysiologie, donc les auteurs Lovelock et Margulis font le lien entre le système planétaire et la physiologie d'un organisme. Donc, selon la méthode de l'analogie. L'organisme humain maintient une température corporelle constante, tout comme il y a des mécanismes planétaires qui stabilisent également certains paramètres. La partie innovante et, nous pourrions dire, sulfureuse de l'hypothèse Gaïa est l'affirmation selon laquelle le biote contrôle ces mécanismes et que la vie maintient une forme d'homéostasie par des boucles de rétroaction négatives. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est-à-dire en tout cas qu'il y a une approche qui met en avant le caractère dit exceptionnel de la Terre, de Gaïa, qui est, donc Gaïa étant la déesse grecque qui représente la mère Terre, qui a été suggérée par William Golding, qui a écrit Sa Majesté des Mouches, qui était le voisin de Lovelock. Pour comprendre un exemple de cette théorie, on sait que selon un principe nucléaire, physique nucléaire, on pense que le Soleil doit émettre progressivement de plus en plus d'énergie radiative. Ainsi, depuis l'apparition de la vie, donc il y a 3,5 milliards d'années, l'intensité solaire a progressé d'à peu près 25%. Et pourtant, la température moyenne terrestre n'a pas augmenté de conserve. Elle est restée au contraire dans une fourchette stable, toujours propice à la vie. Si Lovelock et Margulis conjecturent plusieurs explications à ce phénomène, celle qui est à leur faveur est donc que le biote est responsable de ce phénomène et qu'il le fait pour son propre bénéfice. Donc là, il y a une idée de finalité, en fait, par rapport au biote. Comment expliquer sinon la biodisponibilité constante des éléments indispensables à la vie, donc le phosphore, le soufre, l'azote, l'eau sous forme liquide. Donc il y aurait une habileté continue de la planète qui ne serait ni le fruit du hasard, ni le fruit d'une providence divine, puisqu'il s'agit ici d'une hypothèse scientifique, même si elle a eu du mal à pénétrer dans les milieux scientifiques quand elle est parue. Lovelock essaie de pousser l'allégorie encore plus loin. Donc Gaïa est vue comme une déesse qui prend soin ou qui punit, ainsi que comme un organisme vivant. Donc cela a pu me susciter des mouvements spiritualistes à l'époque de Lovelock, dont il s'est désolidarisé dès le début, voulant fonder une entreprise vraiment scientifique. Il a par exemple publié, je donne un exemple de publication, un livre, « La Terre est un être vivant, l'hypothèse Gaïa ». Donc ce livre date de 1979. Donc, je l'ai dit, l'hypothèse est d'abord très mal reçue par la communauté scientifique, malgré la respectabilité des deux auteurs, Margulis et Lovelock. On voyait cette théorie comme une pseudo-science. On critique évidemment son aspect téléologique, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une finalité, que le vivant aurait pour fin de reproduire son contexte de survie. La téléologie est vraiment l'anathème de la science moderne. C'est ce qu'on a vu avec Olivier qui on dit on n'essaie plus de dire pourquoi, on essaie de dire comment ça fonctionne. Et donc le problème est de savoir si Gaïa est vivante et si son homéostasie doit être comprise littéralement ou non. Donc la version forte de l'alternative, donc il pense qu'il y a vraiment que Gaïa est vraiment vivante et qu'il y a vraiment une homéostasie. Prend l'idée au pied de la lettre, ce qui irrite le courroux donc des néo-darwiniens. Par exemple, ça a été très critiqué. Enfin, on peut penser à Richard Dawkins, par exemple, qui a écrit le gène égoïste, qui est tout à fait contre cette théorie, évidemment. En biologie, tout être vivant est soumis à la sélection naturelle, alors comment envisager cela à l'échelle planétaire sans extrapoler de façon un peu abstraite et sans fondement? la Terre serait-elle, par exemple, en compétition avec les autres planètes? On peut vraiment en douter. On ne peut pas faire de la Terre un être vivant comme les autres qui serait dans la sélection naturelle, etc. D'ailleurs, là-dessus, Lynn Margulis se désolidarise de Lovelock en avançant que tout être vivant produit des déchets, alors que Gaïa n'en produit pas, étant un génie du recyclage. On conteste aussi la question de la régulation biologique de l'atmosphère, parce qu'il faudrait, dans ce cas, penser une sorte de conscience globale, ce qui pose tout à fait problème. Nombre de biologistes rejettent l'idée que les organismes vivants seraient en quelque sorte de bons citoyens cosmopolites. Le comportement altruiste, qui est postulé par l'hypothèse Gaïa, semble en effet en contradiction avec les théories de l'évolution. Dawkins, par exemple, remarque que les produits du métabolisme sont de deux ordres. Soit ces produits sont d'une utilité immédiate pour l'organisme, soit ils sont des déchets. Et donc, ce qui a fait couler le plus d'encre sur cette théorie Gaïa, c'est le thème optimal. Donc la version ambitieuse de l'hypothèse pose que le vivant se crée un environnement optimal. Or, l'histoire de la vie permet d'en douter. On peut rapidement rappeler que ce sont les vainqueurs qui ont écrit l'histoire, et que si on pensait à l'échelle des espèces, on voit bien que la Terre n'a pas toujours été aussi accueillante pour les espèces et pour la vie en général. On peut penser aux 5 extinctions massives qui ont eu lieu sur Terre. Par exemple, avec la grande oxydation. Donc, avant, l'atmosphère de la Terre ne comportait pas d'oxygène, et les premiers êtres vivants étaient des cellules prokaryotes, anaérobies, donc pas besoin d'oxygène, quoi. Et avec l'oxydation, on est passé d'une photosynthèse anoxygénique, pas besoin d'oxygène, à une photosynthèse oxygénique. Et donc, ce qui a eu pour résultat biologique des bouleversements profonds, qui a permis, certes, à la cellule eucaryote de se développer, avec une éclosion de la vie basée sur la respiration oxygénée. Et c'était au détriment d'autres espèces. Donc ça a été un holocauste du point de vue des cellules anaérobes. Certaines survivent dans les systèmes digestifs des animaux. Tentent de survivre. Donc face à toutes ces critiques, Lovelock a dû relativiser ses positions. Il ne parle plus de conditions optimales. Donc il a supprimé l'idée d'optimalité. Il explique désormais seulement que la Terre est un être vivant, mais en tant que métaphore. Donc ça, c'est ses dernières positions qui sont dans son livre de 2009, The Vanishing Face of Gaia, A Final Warning. Il propose plutôt, donc pour comprendre cette homéostasie, le modèle heuristique du monde des pâquerettes. Je ne sais pas si c'est pas très connu. Je ne sais pas si... peut-être pas assez, parce que je sais pas, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc je vais avancer un petit peu plus vite. En tout cas, la respectabilité de l'hypothèse Gaïa est de plus en plus conquise, jusqu'à son avènement dans les sciences du système Terre, Earth System Sciences, donc en anglais. Et elles reprennent les éléments dans une synthèse systémique. Donc il y a un rapport avec les développements de la cybernétique et la science des systèmes qui ont permis, avec la croissance des puissances de calcul, de développer les premiers modèles climatiques informatisés. Donc par exemple avec les premières simulations pour prédire la météo, par exemple. En 2001, donc, il y a eu une conférence majeure des sciences du système Terre à Amsterdam qui a donné lieu à la déclaration d'Amsterdam, dans laquelle on peut lire la définition du système Terre. Donc c'est comme ça qu'on conçoit la Terre aujourd'hui, comme un système. Le système Terre se comporte comme un système unique, autorégulé, comprenant des composantes physiques, chimiques, biologiques et humaines. Les interactions et rétroactions entre les différentes composantes sont complexes et montrent une variabilité spatiale et temporelle sur plusieurs échelles. Et donc là, il peut sembler qu'on voit la victoire de la théorie du système Gaïa. Et c'est d'ailleurs sur ce terreau systémique, l'idée de la Terre comme système, qu'a germé le concept d'anthropocène, avec la compréhension des flux de matière et d'énergie, et des processus interdépendants qui font actuellement la compréhension scientifique du fonctionnement planétaire. Et donc du coup, on arrive à se demander donc, si l'abandon de l'idée de la Terre comme système optimal peut nous permettre de penser la Terre comme système sous-optimal. Il se trouve que la Terre, comme tous les systèmes, on va continuer d'essayer de faire l'analogie entre les organismes qui sont sous-optimaux et la Terre, dont on a vu qu'elle n'est pas vraiment optimale. Donc on sait que la Terre est un système complexe selon la théorie des systèmes, ce qui est une propriété des systèmes sous-optimaux biologiques. Donc c'est-à-dire qu'il y a des apparents désordres et des défaillances, du chaos, de l'inefficacité si l'on regarde de près, mais si on prend une plus petite échelle, donc on prend du recul, on peut voir de la résilience à long terme et une forme d'équilibre, une forme de stabilité. Donc pour comprendre les systèmes complexes, il faut construire des modèles qui suivent des dynamiques appelées non linéaires. C'est-à-dire que dans un système non linéaire, les conséquences ne sont pas proportionnelles aux causes. La non-linéarité autorise donc des nouveaux phénomènes. et le système peut venir appuyer l'effet d'une petite cause et le renforcer. Par exemple, c'est la théorie de l'effet papillon qui est plus connue. Je n'ai pas développé pour avaler plus vite. Donc, c'est-à-dire que le système donc, peut appuyer l'effet d'une petite cause et le renforcer. Et là, on parle de dynamique exponentielle ou explosive. Et là, c'est des boucles de rétroaction positives. Ou alors, le système peut tempérer certaines causes. Et là, on est dans des négatifs feedback, donc des boucles de rétroaction négatives. Donc, dans un modèle, chaque état du système est décrit par un ensemble de variables quantifiées qui peuvent évoluer dans le temps. Et donc, on parle d'espace d'état pour parler de l'ensemble des configurations possibles du système. Donc, tout ce que le système peut donner comme, comme configuration. Donc, c'est le potentiel évolutif d'un système. Et dans les systèmes mécaniques, la dynamique se décrit en général à partir des positions et des vitesses. Donc, cet ensemble de variables fait qu'on parle d'espace de phase. Donc, c'est juste un petit point définitionnel. Et on a observé donc, que, quelles que soient les conditions... Donc, là, dans un système complexe. Donc, la Terre comme système complexe. Quelles que soient les conditions initiales, les trajectoires de l'espace de phase convergent vers certaines structures. Et par conséquent, le système évolue seulement dans une partie bien déterminée d'un espace de phase, ce qu'on appelle un attracteur du système. Je vais donner un exemple. Par exemple, pour avoir un attracteur de dimension zéro, on prend un bol, on fait rouler une bille dedans. Donc la bille, elle va osciller un temps le long des parois, mais avec le jeu des frottements, elle va finir inévitablement au fond du récipient et demeurera immobile à l'équilibre.